Nous prenons donc la suite pour vous parler de l'outil que nous avons élaboré, proposé, testé sous la forme donc d'une recherche collaborative dont vous ont parlé Frédéric et Rachel à l'instant. Et peut-être aussi vous présenter rapidement notre équipe. Donc nous sommes quatre ce matin, mais en fait notre équipe est constituée de 9 collègues dont vous avez ici les noms. Et nous travaillons donc dans le laboratoire EMA à l'université de Cergy. Avant peut-être de commencer, juste un tout petit mot. C'est pour vous dire que toutes vos réponses et toutes les questions que vous avez posées en amont sont absolument passionnantes. Et c'est vrai qu'on aurait envie de prendre le temps de passer 3 jours avec vous pour y répondre et pour y travailler. Alors, ce n'est pas forcément le but aujourd'hui, mais j'espère que vous pourrez, à travers ce qui va se faire et se dire, tisser des liens, peut-être, et puis ne pas hésiter aussi à questionner, à recréer une discussion autour de tout cela. Alors, pour vous présenter un petit peu notre recherche, cette recherche est issue, elle est au croisement, en fait, de trois domaines. Le premier domaine, ce sont les recherches en didactique du français, notamment donc les recherches qui portent sur l'enseignement de la compréhension et dont nous ont parlé ce matin Frédéric et Rachel. Ça, c'est un petit peu notre point de départ et aussi notre point d'arrivée. Mais il y a aussi toutes les recherches en sciences du langage, c'est-à-dire tout ce qui porte sur l'implicite dans le discours et dont Anissa, tout à l'heure, vous parlera, ainsi que les recherches en littérature, c'est-à-dire que nous nous sommes vraiment appuyés là sur ces deux domaines pour comprendre justement comment fonctionne l'implicite dans les textes de fiction et comment, bien sûr, on les lit. C'est pour cela donc que nous avons, à partir de ces trois domaines, élaboré un outil didactique qui concerne à la fois l'enseignement et la formation dans le domaine de la compréhension avec comme objectif, comment améliorer la compréhension des élèves et comme hypothèse, celle qui a été posée et signalée tout à l'heure par Frédéric, eh bien, l'implicite ou la lecture des implicites serait une aide à l'amélioration, bien sûr, de la compréhension des élèves dans ce domaine. Voilà, donc ça, c'est un petit peu pour vous poser le cadre, pour vous dire ce que nous avons fait, où nous en sommes. Et donc, ce que nous allons vous présenter ce matin relève en effet de ces trois points. C'est-à-dire que nous allons explorer ensemble les trois domaines. D'abord, une approche didactique avec un petit point sur qu'est-ce que comprendre, la compréhension, s'assurer que nous parlons tous bien, en tout cas que nous pouvons discuter autour des modèles. Et puis, une approche linguistique et littéraire pour travailler sur le texte fictionnel et ses caractéristiques, sur aussi la notion d'implicite. On regarde des incomplétudes du texte. Et enfin, vous présenter cet outil. Vous voyez, on fait un petit peu un effet d'annonce depuis tout à l'heure. Donc, on recule. On va bien finir par vous en parler. Donc, de l'outil et de ses usages, à la fois pour la lecture des enseignants et puis pour la formation, naturellement. Voilà. Si vous êtes fin prêt, on y va, on démarre. Alors, tout d'abord, dans une approche didactique, à l'origine de notre travail et de notre réflexion, il y a eu un constat. Alors ce constat, ça fait longtemps qu'il est posé. Il est posé, d'abord, il y a eu tous les travaux de la recherche Guagou, la recherche des réécrire, qui ont donné malgré tout les outils que nous avons déposés, que vous connaissez, la lecture pas à pas et de Visibilio. Mais le constat qui a été fait demeure. Ce constat, c'est que quand on regarde actuellement encore les évaluations nationales et internationales, deux points nous apparaissent. Le premier point, c'est que nous avons affaire à une situation paradoxale. Et je vais revenir là-dessus. Le deuxième point, mais ça, ce n'est pas un scoop du tout. L'analyse est faite et les mots sont posés. C'est un enseignement inégalitaire. Alors, pourquoi avons-nous affaire à une situation paradoxale ? Je vous montre ceci. Je me rapproche du micro pour vous l'expliquer. Voilà. Il s'agit des résultats PIRLS de 2021. Les résultats PIRLS de 2021 sont analysés selon deux grands domaines. Le premier domaine, en bleu, concerne toutes les compétences proches du prélèvement ou des inférences simples. Donc ça, c'est un premier groupe. Et en général, donc, PIRLS classe les élèves selon ces deux grandes catégories. La deuxième compétence, le deuxième ensemble de compétences en rouge, c'est tout ce qui concerne l'interprétation et l'appréciation des textes. Or, vous voyez que quand on parle de compréhension, est-ce qu'on parle de prélèvement ou est-ce qu'on parle d'interprétation, naturellement, d'appréciation, c'est-à-dire aller au-delà, comprendre vraiment les textes. Nous sommes bien d'accord que c'est le rouge qui nous intéresse. Je vous regarde, est-ce que vous hochez la tête? Oui, merci. Voilà. Hein? Donc, c'est bien le rouge qui, pour la compréhension, nous intéresse. Or, regardez les résultats des élèves français. Ce sont les deux courbes que j'ai posées. Les élèves français sont meilleurs en prélèvement qu'en compétences plus élaborées, avec quand même un écart relativement important. Et j'ai mis à côté la moyenne européenne. Donc, vous voyez que la moyenne européenne, on a quasiment la même chose entre interpréter et prélever. Mais regardez d'autres pays où les élèves sont bien meilleurs dans les compétences élaborées de compréhension, comme l'Angleterre, comme la Pologne, comme l'Italie. Je n'ai pas mis là les chiffres d'Italie, hein, je fais un petit clin d'œil à Nathalie, mais ils sont bien meilleurs sur ces compétences élaborées que nous. Or, quand vous voyez cela, que vous dites-vous? Ben, vous vous dites, il faut qu'on trouve un moyen de travailler, bien sûr, ces compétences beaucoup plus élaborées pour la compréhension. C'est vrai, mais pourquoi avons-nous une situation paradoxale? Parce qu'en effet, les difficultés des élèves français portent sur les compétences complexes, dites de haut niveau, interpréter, apprécier et piloter son activité. C'est exactement ce que vous aviez pointé tout à l'heure comme difficulté. Mais, eh bien, quand on regarde, ces compétences sont les moins enseignées. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles posent absolument toutes les difficultés que vous avez pointées. Donner de l'espace, laisser un espace de réflexion aux élèves, passer un peu de temps, c'est beaucoup plus chronophage naturellement que le prélèvement. Et comme il y a eu un rapport, un des inspecteurs généraux, en effet, on évalue parfois sans enseigner. Le deuxième point aussi, c'est que les enseignants disposent de peu d'outils. Donc ça, c'est notre constat à nous, ou peu d'éléments concrets, vous l'avez également pointé, dans les presses. Et pour cet enseignement, donc nous avons proposé un outil pour accompagner cet enseignement. Mais ce qui me paraît vraiment paradoxal, ce sont les préconisations qui sont actuellement faites, qui vont vers le renforcement des compétences de prélèvement et de rapidité, au détriment du travail sur la compréhension. Ça va? On ne peut pas nous dire qu'en renforçant la fluidité des élèves, nous allons renforcer la compréhension. On peut devenir fluide si on a bien compris, et je pense qu'il faudrait placer l'un après l'autre, naturellement, travailler les compétences complexes de compréhension pour permettre aux élèves de devenir des compreneurs autonomes, naturellement, et également des compreneurs fluides. Voilà pourquoi je signale une situation, à mon avis, à notre avis, paradoxale, et c'est pour cela donc que nous avons proposé un outil. Le dernier point, c'est que cette situation pénalise plus particulièrement les élèves des milieux socio-économiques peu favorisés, c'est-à-dire ceux qui ont le plus besoin de l'école. Un schéma, simplement pour le regarder. Voici les résultats de PISA 2022. Vous regardez dans le cercle rouge, vous voyez la France, nous sommes à peu près dans la moyenne de l'OCDE. Nous sommes en dessous de la moyenne européenne malheureusement, mais n'en parlons pas. Ce n'est pas ce qui nous intéresse là. C'est plus que sur la ligne des résultats français, nous avons, si nous regardons, les élèves de seconde pro ou de ceux de troisième qui sont en retard, donc les élèves de 15 ans qui sont encore en troisième, ont des résultats bien inférieurs aux autres et bien inférieurs à toutes les moyennes de l'OCDE européenne et autres. C'est-à-dire que les élèves qui ont le plus besoin d'école, ce ne sont pas ceux qui profitent le plus de certains enseignements et de ce qui se fait, c'est-à-dire que évaluer la compréhension eh bien, ne leur permet pas d'apprendre à comprendre. Voilà. Est-ce que ça va ? C'était notre constat de départ, et vous voyez, c'est pour cela que nous avons proposé un outil, parce qu'il nous semble là que formateurs comme enseignants ont besoin d'outils pour justement eh bien, travailler ces compétences complexes. Alors, on va revoir un petit peu maintenant qu'est-ce que comprendre, et je vous propose la lecture d'un extrait ensemble. Ce point va nous permettre d'appuyer pourquoi eh bien, nous avons choisi de travailler justement sur les implicites. Alors, c'est un extrait qui c'est extrait d'un livre pour enfants qui s'appelle « Le poivre magique ». Dans la forêt, le chevalier Gauvin vient de rencontrer un drôle de petit bonhomme. « Tu dis que ces arbres t'appartiennent, nain ? Je ne suis pas un nain, mais un lutin, et le roi de la forêt. » Le chevalier se mit à genoux devant lui, moqueur. « Ô grand roi, je te salue !» Le lutin, vexé, décida de lui donner une bonne leçon. « Je m'arrête là. Qu'avez-vous déjà élaboré simplement à partir de ce début ? Où êtes-vous ? Dans quelle fiction êtes-vous à partir simplement de ce début ? Les chevaliers de la table ronde, Gauvin, une forêt, caractéristique de la forêt dans ce domaine, oui, une forêt, voilà, avec enchanté, le personnage du lutin, la fantaisie, voilà, d'accord. On continue. Que peut-il se passer ? Le lutin vexé décida de lui donner une bonne leçon. Vous vous attendez à quelque chose ? Une difficulté ? On continue. Il prit une pincée de poivre et la lança au visage du chevalier. Gauvin éternua. Quand il rouvrit les yeux, il vit avec épouvante que la forêt s'était agrandie au-dessus de lui. Les champignons étaient gigantesques et tout là-haut, le lutin le regardait en riant. Alors, que s'est-il passé et qu'a-t-il fallu faire pour comprendre ? Le chevalier s'est rétréci, tout à fait. Le chevalier s'est rétréci.
Poivre magique.
Le poivre était magique. Une inversion du rapport de force entre les deux personnages. Et le texte, donc, nous trompe. Hein, il y a vraiment une fausse piste induite par le texte, naturellement, puisque le texte présente comme une réalité ce qui est le contraire, naturellement. On avance un petit peu, on fait un point. Dites-moi, notre compréhension, là, n'a pas été seulement du prélèvement de mots. Nous sommes bien d'accord, nous sommes allés beaucoup plus loin, nous avons fait une mise en lien, nous avons effectué un certain nombre d'opérations. Je vous donne la référence, Franck Jouve, Les Lutins, Mes Premières Légendes, vous voyez, c'est vraiment un texte qui s'adresse à des enfants petits. Alors, qu'avons-nous fait pour comprendre cet extrait ? Tout d'abord, lu le texte, nécessité de connaître la langue, bien sûr. Nous mobilisons tout un ensemble de connaissances nécessaires. Gauvin, la table ronde, le courage, la ténacité, l'univers des légendes, la forêt, le lieu enchanté, voilà, et ainsi de suite. Troisièmement, nous établissons des liens pour déduire ce qui se passe entre ces deux personnages. Bien sûr, relation d'opposition, relation de pouvoir, donner une bonne leçon, la vengeance, et ainsi de suite. Mais aussi, il nous a fallu décoder un discours ironique. « Ô grand roi, je te salue !» pour comprendre la situation, pour comprendre la moquerie. Nous avons comblé une ellipse très importante dans le texte, puisque il y a eu ce moment, hein, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais comme vous avez vu, on a un changement de point de vue, c'est-à-dire que le point de vue se transforme et nous prenons le point de vue de Gauvin comme étant un fait, bien sûr, le texte nous trompe. Et il nous a fallu aussi accepter cette logique du monde merveilleux, s'assurer aussi de la cohérence de ce que nous avons reconstruit, c'est-à-dire que nous sommes revenus dessus pour nous assurer que nous ne nous étions pas trompés, bien sûr, et enfin, honnêtement, ça vous a un petit peu amusé quand même, hein, c'est-à-dire que nous avons apprécié, nous avons forcément un ressenti en tant que lecteur, que se passe-t-il ? Je reprends très vite. Donc, qu'est-ce que comprendre ? C'est élaborer progressivement une représentation mentale, nous sommes d'accord, en traitant les informations linguistiques, en mobilisant nos connaissances lexicales et connaissances du monde, en faisant des liens, des inférences. Nous avons rempli les blancs, les vides, les ellipses, tout ce que le texte ne disait pas en utilisant ce qu'il dit. Nous avons vérifié la cohérence de ce qui s'élabore et modifié nos représentations, c'est-à-dire fait preuve de flexibilité. Nous avons changé, nous avons accepté ce changement. Nous sommes bien loin d'un simple questionnaire de lecture. Nous voyons bien que la compréhension est une activité complexe. Est-ce que ça va ? Je voulais juste que nous fassions un point et puis je vous ai ajouté quelque chose parce que vous voyez aussi que comprendre, eh bien, c'est accompagner les élèves dans la compréhension, c'est-à-dire aller vers l'autonomie de la lecture. Et il me semble que mieux les élèves comprennent les textes qu'on leur lit, mieux ils comprennent les textes qu'ils lisent seuls. Quand on travaille la compréhension, on ne travaille pas le code, mais on travaille bien la compréhension, c'est-à-dire qu'on les accompagne et on s'assure de la lecture du texte par eux, bien sûr, vers l'autonomie, mais par l'enseignant, pour travailler ça. Les compétences en décodage, pour importantes qu'elles soient, n'expliquent pas la totalité de la compréhension. Développer les compétences à comprendre des textes entendus qui sont très marqués socialement, mais qui sont peu enseignés. Voilà. Il me semble que ce sont des éléments importants hein, que je voulais simplement revoir avec vous. Alors, si vous le voulez bien, nous allons parler maintenant des inférences, parce que cela va nous amener, bien sûr, vers l'implicite que va vous présenter Anissa. Les inférences qui sont au cœur même de la compréhension, et nous allons revenir, bien sûr, sur le travail inférentiel que nous avons fait sur la lecture donc, de ce petit texte. Tout d'abord, définir l'inférence. L'inférence, donc, c'est une activité complexe qui se situe du côté du lecteur. Et les inférences, ce sont toutes les opérations effectuées pour mettre en relation le dit et le non-dit du texte, c'est-à-dire toute cette mise en lien. Comment le lecteur va-t-il effectuer les inférences ? Tout d'abord, pour effectuer des inférences, il faut se rendre compte qu'il manque quelque chose dans le texte. Et ça, je signale ce point parce qu'il est important, ça veut dire qu'il va falloir rendre visibles les trous, en quelque sorte, les absences, pour que les élèves éprouvent le besoin de les combler. Vous avez des élèves qui vont lire des textes et qui ne vont jamais prendre conscience, bien sûr, qu'il y a des trous. Le deuxième point, c'est de mettre en lien les éléments qui sont donnés dans le texte avec les connaissances appropriées, connaissances sur les textes, connaissances sur le monde dont on a besoin. Alors, trois critères pour analyser les inférences. L'empan de l'inférence, c'est-à-dire sur quelle dimension elle porte. Est-ce que ce sont des inférences de liaison ou d'élaboration ? La nécessité, a-t-on besoin ou pas de faire ces inférences ? Et enfin, la direction. Est-ce qu'elle porte sur des données avant ou est-ce qu'elle porte sur ce qui va suivre ? Bien sûr. Ça va ? Alors, les inférences de liaison. C'est-à-dire avec un empan faible, quand on rapproche des éléments qui sont contenus dans le texte. Ce sont des traitements souvent automatiques, soit avec le traitement des anaphores, soit la causalité simple, et dont le résultat est totalement indiscutable. Par exemple, le lutin vexé décida de lui donner une bonne leçon, il prit une pincée de poivre, il la lança au visage du chevalier, Gauvin éternua, quand il rouvrit les yeux, il vit. Là, nous sommes bien sûr. Une reprise anaphorique, c'est important bien sûr pour comprendre le texte, mais vous voyez bien qu'on n'est pas sur l'essentiel naturellement de la compréhension, mais ce sont des éléments importants. Ou bien, causalité, la pincée de poivre, éternuer, rouvrir les yeux, voilà, hein, nous avons une causalité là qui s'installe naturellement. Ça va ? Deuxième type d'inférence, ce sont les inférences élaboratives, ce sont celles-là bien sûr qui sont les plus importantes, parce qu'elle porte sur un empan large, c'est-à-dire que celle qui nécessite pour le lecteur d'assembler les différents éléments du texte et les images, hein, s'il y en a, en lien avec ses connaissances pour élaborer une signification qui va contribuer, bien sûr, à la construction de la représentation mentale. Ces inférences sont nécessaires et ce sont ces inférences-là qui nous permettent de traiter les implicites. Quand il rouvrit les yeux, il vit avec épouvante que la forêt s'était agrandie au-dessus de lui. Donc tout à l'heure, qu'avons-nous fait ? Reconstruire la situation, comprendre le changement de point de vue. Ce n'est pas la forêt qui s'est agrandie, c'est le personnage qui a diminué. Donc comprendre que le poivre était magique, comme l'indique le titre, que le lutin a des pouvoirs extraordinaires et ainsi de suite. Et pourquoi rit-il à la fin ? Eh bien parce qu'il est content, il s'est vengé. Moi, lecteur, je complète et j'élabore, d'où le nom d'inférence élaborative, j'élabore tout ce qui n'est pas dit dans le texte. Dernier élément, la nécessité, avant-dernier, certaines inférences sont nécessaires, d'autres ne le sont pas. Par exemple, là, j'ai une ellipse, c'est une inférence nécessaire, je dois absolument combler cette ellipse. Parfois, il y a des éléments dans les textes qui ne sont pas nécessaires. Le lendemain, un soir, après son bain, après mon bain, grand-mère m'emmena dans la salle de séjour pour me raconter la suite. C'est une ellipse temporelle, mais ce n'est pas du tout une inférence nécessaire. Est-ce que j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé entre les deux ? Pour l'instant, je ne le sais pas. Et c'est ça qui est intéressant, parce que là, je ne pense ne pas en avoir besoin, mais je peux très bien être dans une situation où je serai obligé de faire le retour en arrière, parce que cette absence d'information, finalement, eh bien, ce sera une ruse du texte, hein, et qu'il faudra la combler. C'est le cas, par exemple, des policiers. Voilà. Dernier, est-ce que ça va ? Hein, donc, on a vu les inférences les plus importantes, liaison et élaboration, surtout l'élaboration, ça c'est lampant. Là, vous voyez la nécessité, certaines sont nécessaires, d'autres pas. Et enfin, la direction de l'inférence. Donc, soit l'inférence porte sur un élément précédent, c'est la rétrospection, le lutin, il, hein, ou bien sur les inférences sont prospectives, elles me permettent d'anticiper ce qui va suivre. Là, par exemple, je pourrais vous demander, eh bien, que va faire Gauvin après cet épisode ? Naturellement, vous voyez que là, eh bien, moi, lecteur, ça me permet d'anticiper, et c'est un outil aussi, bien sûr, pour le pilotage de la compréhension. Voilà, donc je conclue. Importance de repérer les implicites pour anticiper le travail inférentiel du lecteur. Donc, vous voyez pourquoi notre guide, notre grille, eh bien, justement, pour repérer les implicites. Anissa va vous les présenter tout de suite. Importance des inférences pour combler les blancs du texte. Importance des inférences pour déjouer les fausses pistes. Et apprendre à comprendre, eh bien, c'est bien saisir les implicites des textes grâce au calcul inférentiel.
Merci. Je vais donc maintenant, de mon côté, m'attarder sur la question de l'implicite dans le texte littéraire. Je vous prie de m'excuser par avance de la difficulté, voire de l'aridité de certaines notions que je vais aborder si vous n'êtes pas littéraire, mais c'est parfois compliqué de simplifier des notions qui sont compliquées au départ. Donc, implicite et texte littéraire. Alors, tout d'abord, l'implicite. Il faut bien admettre que du point de vue didactique, c'est un impensé. On a aujourd'hui en didactique des travaux nombreux, des travaux solides et reconnus sur la lecture-compréhension en classe qui adoptent des angles d'approche différents. Par exemple, Bianco, qui aborde la compréhension sous l'aspect des processus cognitifs, Bishop, Seb et Guagou, qui sont dans une visée didactique, qui proposent des outils, Dufaillit et ses co-auteurs, ou alors Tauvron, qui réfléchissent aux modalités de la lecture littéraire, ou encore Giasson, dans un ouvrage déjà assez ancien, sur les inférences en lecture. Tous ces travaux abordent peu ou prou à peu près la même chose, c'est-à-dire une question structurelle des textes littéraires qui est celle de leur incomplétude, parce que c'est ça qui nous donne du fil à retordre en tant que lecteur, et c'est ça que je vais aborder aujourd'hui. Et il laisse donc dans l'ombre, tous ces travaux, un aspect important pour la compréhension, qui est la question de l'implicite. Peu d'auteurs définissent l'implicite comme un objet identifiable et observable. L'accent est le plus souvent mis, comme vous l'a dit Marie-France, sur la question de l'inférence, qui est une opération mentale du lecteur, plutôt que sur l'implicite. L'implicite, d'un point de vue étymologique, c'est ce qui se niche dans les plis du texte. Or, la recherche du groupe Lire postule que les élèves peinent à saisir l'implicite des textes car il est rarement circonscrit comme objet d'enseignement, aussi bien dans les programmes que dans la formation des enseignants. Donc ici, aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est d'abord cadrer le propos, ensuite évoquer avec vous les implicites du littéraire, et puis ce sera déjà un bon programme. Et donc, je voudrais d'abord cadrer mon propos. Mon propos, c'est donc le récit littéraire fictionnel. Alors, tout d'abord, le récit. Donc ici, j'entends récit au sens de narration d'une série d'actions, d'événements qui sont interprétables comme une séquence, c'est-à-dire un ensemble pris en charge par le narrateur. Cela exclut, par exemple, le texte de théâtre qui pose d'autres problèmes, notamment celui de la représentation. J'aborde donc le récit écrit et non pas le récit oral, qui a d'autres particularités, et je n'aborde pas non plus, pas tant que ça, un petit peu à la marge, le récit iconotextuel, parce qu'il y a d'autres questions qui sont soulevées par le rapport entre texte et image. C'est très très proche, mais pour l'instant, moi je me centre plutôt sur le récit. Ensuite, je vais vous parler du récit littéraire. Ce que je veux dire par récit littéraire, c'est un récit qui sans prendre en compte la valeur intrinsèque, hein, qui date des années 70 et notamment du structuralisme, où on disait « oui, ça c'est littéraire, mais ça ne l'est pas », j'aborde tout le critère d'appartenance au marché du livre. Ça a son importance parce que j'exclus ici tout ce qui n'est pas... tout ce qui est récit d'élèves, par exemple, ou tout ce qui est fanfiction. Non pas pour une question de valeur, mais parce que pour l'instant, on est plutôt sur le récit publié, type roman, nouvelle ou conte, etc., etc. Ou même mémoire et biographie, pour l'instant. Et enfin, et ça, c'est ce qui est très intéressant, ce qui est au cœur de notre propos, on va travailler sur le récit littéraire fictionnel, c'est-à-dire le récit littéraire qui évoque une histoire qui ne se donne pas pour vraie, c'est-à-dire la majorité des œuvres qui sont abordées en contexte scolaire. Aussi bien les albums, les contes, les nouvelles, les romans lus en classe. Alors, fictionnel à l'école se confond souvent avec littéraire. Quand on entend fictionnel, on entend souvent littéraire. Ou même avec récit. Quand on parle de fictionnel, on pense souvent au récit. Alors que la fiction, comme l'a démontré Schaeffer, dans son ouvrage de 99, la fiction, c'est pas du tout un critère littéraire au départ, c'est anthropologique la question de la fiction. Et la fiction dépasse le cadre du littéraire. Et on a, pour Schaeffer, la fiction a pour enjeu de modéliser le réel, qu'on pense par exemple, certes, au récit, comme le film ou la fanfiction, mais aussi la fiction, c'est le jeu vidéo, jeu de rôle, ou même les jeux enfantins. Ou même la rêverie, par exemple, c'est de la fiction qui a pour enjeu de modéliser le réel. Donc nous, on s'intéresse au récit littéraire fictionnel. Dans son fonctionnement et dans ses enjeux, la lecture d'un texte non fictionnel comme le documentaire est très différente d'un texte dont l'histoire et les personnages sont imaginaires. Le texte documentaire, par exemple, renvoie à un au-delà du texte qui est vérifiable dans le monde, alors que le texte fictionnel n'a pas obligatoirement de référent. Ce qui fonde le texte de fiction, c'est son caractère imaginaire. C'est comme ça que le définissent les poéticiens. Par exemple, pour Dorit Cohn, ou pour Isère, ou des gens comme Schaeffer aussi définissent le récit de fiction par le caractère imaginaire de l'histoire racontée. Et donc, à partir de là, il y a trois caractéristiques du récit de fiction que vous avez sous les yeux. Il invente son monde par son récit. Deuxième caractéristique, il peut ne pas être référentiel. Et enfin, la troisième caractéristique qui nous intéresse, son incomplétude le caractérise. Donc, la première caractéristique, il invente son monde par son récit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire préexistante au récit. Alors certes, les formalistes russes, dans des travaux déjà très très anciens, nous apprennent à différencier, par exemple, l'histoire de la narration. Mais en fait, non, on sait bien qu'il n'y a pas tout d'abord l'histoire qui se... Même si on peut, d'un point de vue didactique, faire recomposer ça aux élèves, il n'y a pas d'un côté l'histoire et ensuite la façon dont elle est racontée. Tout est une invention de l'imagination, une invention de l'auteur. D'autre part, donc, il peut ne pas être référentiel. Et là, on voit bien que dans les récits de fiction, on a des récits de fiction qui vont du plus référentiel possible, c'est-à-dire si je raconte une histoire qui se situe dans ce monde d'aujourd'hui, par exemple, je rentre chez moi dans mon hôtel ce soir et j'invente une histoire à partir de cette journée, ce sera quand même de la fiction. Et ça se distingue évidemment de la fiction la plus extrême, qui est par exemple une histoire qui se déroule sur une autre planète en 3250. Là, on est dans de la fiction qui est carrément non mimétique. Donc il y a des échelles effectivement dans la fictionnalité, mais en tout cas ce sont des histoires inventées. Et enfin, l'incomplétude est caractéristique, et là c'est super intéressant parce que on a aujourd'hui dans les récits, et surtout les récits qui sont fréquentés par les jeunes, des récits qui sont incomplets. Mais on est tellement habitué, c'est une convention, hein, on est tellement habitué par convention à la lecture de ces textes-là qu'on ne le remarque pas. On peut le remarquer si on s'interroge, par exemple, sur les suites. Tout ce qu'on appelle aujourd'hui donc les suites, les préquels ou les midquels ou les interquels, vous voyez, tous ces récits qui se croisent les uns les autres et qui, par exemple, explorent ce qui s'est passé avant telle aventure. Par exemple, Star Wars, c'est Star Wars. On a eu d'abord le premier Star Wars qui est sorti dans les années 70, et depuis, on n'arrête pas de décliner l'univers de Star Wars en inventant des histoires qui se glissent dans les trous. Donc, vous voyez que ces trous, ce sont les incomplétudes. Ce qui est intéressant, donc, ce qui nous intéresse, c'est que ces deux remarques-là que je vous ai mises à propos du monde foisonnant donc de la fiction, ce sont celles-ci. Schaeffer dit « L'univers fictif est un analogon de ce qui, à un titre ou à un autre, est considéré comme étant réel. » Cette remarque, elle est fondamentale. Parce que toute fiction, et même la fiction la plus débridée, la plus échevelée, celle dont je vous parlais tout à l'heure, qui se passe en 3250 sur la planète Zorglub, avec des vaisseaux spatiaux qui se font la guerre, toute fiction, en fait, ne fait que reproduire ce qui se passe dans notre rapport réel. Des histoires de pouvoir et des histoires d'amour, en gros. Je la fais courte, hein, j'adore Star Wars, hein, mais en gros, c'est ça. Et donc, cette remarque, elle est très, très importante. Deuxième remarque, qui est celle de Marie-Laure Ryan, qui stipule ce qu'elle appelle le principe d'écart minimal. Ryan, elle dit, « Nous reconstruisons le monde central d'un univers textuel en nous conformant le plus possible à notre représentation du monde actuel. » Nous ne ferons que les ajustements dictés par le texte. Ça, c'est très intéressant parce que par le principe d'écart minimal, ce qu'elle dit, c'est que, par exemple, imaginons une fiction qui nous présente un extraterrestre et on nous dit « cet extraterrestre, il est incroyable, il a 4 jambes et 4 bras ». Mais si on ne nous le dit pas, on va supposer qu'il n'a qu'une seule tête. Si on nous dit « oh là là, mais c'est incroyable, il a la peau bleue », on va supposer que par ailleurs, bah, ce n'est pas ça qui l'empêche d'avoir une taille tout à fait normale, d'accord ? C'est-à-dire, je ne sais pas moi, comprise entre la taille d'un humain, la taille moyenne d'un humain, par exemple. Et donc, ce qui veut dire que le récit fictionnel, quand on dit qu'il est incomplet, ce n'est pas juste qu'il est incomplet et c'est un défaut de structure, comme ont pu l'analyser certains théoriciens. C'est que le récit fictionnel, il a les moyens, mais aussi l'obligation, pour être lisible, d'être fondamentalement incomplet. Vous voyez la différence ? C'est que ce n'est pas « oh mince, ce récit est incomplet, comment je vais faire pour ?» C'est que nous, en tant que lecteurs, on ne peut lire que des récits qui sont incomplets. Parce que sinon, ça s'arrête tout, l'incomplétude. Enfin, s'il faut tout préciser, ce matin-là, alors un matin, c'est, etc., etc. Le soleil brillait. Le soleil, gros astre. Vous voyez, c'est illisible. Donc, si on adopte ces principes d'incomplétude, finalement, on a là ce qui, ça fait ressortir, en fait, ce qui est une convention dans la lecture. Et ce qui est une convention dans la lecture, c'est-à-dire, en tant que bon lecteur, on ne s'en rend même plus compte. Et donc, on comble un récit, ce que ne peut pas forcément faire un mauvais lecteur ou un lecteur moyen. Alors, et là, je voudrais donc maintenant vous parler, parce que je vais finir par vous parler de l'implicite, hein, explorer la différence entre incomplétude et implicite. On dit souvent que l'incomplétude, comme l'implicite, c'est ce qui n'est pas dit. Or, non. Et c'est là qu'est la différence, c'est que l'incomplétude, c'est effectivement ce qui n'est pas dit, c'est-à-dire ce qui est absent du texte. Mais l'implicite, ce n'est pas pareil. L'implicite, selon la définition de Ducrot, c'est dire sans avoir dit. On voit bien la différence ici. C'est que dans un cas, l'incomplétude, ben juste, c'est pas dans le texte, alors que par l'implicite, on veut signifier quelque chose. C'est-à-dire que contrairement à l'incomplétude, l'implicite, elle laisse un creux qui demande à être comblé, qui nécessite donc, de la part du lecteur, des inférences particulières. Voilà la différence entre les deux. Je vais vous prendre un exemple, c'est le début d'une soupe aux cailloux. Alors certes, j'ai dit que j'aborderai pas le récit iconotextuel, vous voyez, je contreviens déjà à ma règle, mais ce début est très intéressant. C'est la nuit, c'est l'hiver. Un vieux loup s'approche du village des animaux. La première maison est celle de la poule. Le loup frappe à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là ? Demande la poule. Le loup répond. C'est le loup. La poule s'affole. Le loup ! N'aie pas peur, poule. Je suis vieux. Je n'ai plus une seule dent. Laisse-moi me réchauffer près de la cheminée et me préparer une soupe aux cailloux. Là, c'est super intéressant parce que on a énormément d'incomplétude et d'implicite dans ce texte. Incomplétude, c'est la nuit, c'est l'hiver. Ça, c'est de l'incomplétude parce que on ne saura pas ce que faisait le loup avant. On ne sait pas d'où il vient. À la fin du récit, d'ailleurs, on ne sait pas trop où il va. Mais vous voyez, on ne sait pas quand ça se déroule. C'est un conte. Hein. Donc là, ça, c'est de l'incomplétude. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qui se passait avant. On ne sait pas pourquoi ça commence juste à ce moment-là. Mais on l'accepte comme une convention. Et à la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance pour le récit. Donc ça, c'est l'incomplétude. La différence avec l'implicite, c'est celle-là. Le loup s'approche du village des animaux. La première maison est celle de la poule. La poule s'affole. N'aie pas peur, poule. Je n'ai plus une seule dent. Laisse-moi me réchauffer près du feu. Pourquoi ce sont des implicites ? Eh bien, parce que, tout d'abord, il existe quelque part un village des animaux. D'accord ? On l'admet comme quelque chose qui est posé là. Il y a plusieurs maisons qui appartiennent à différentes sortes d'animaux. C'est ce que nous dit la phrase « La première maison est celle de la poule ». Sous-entendu, il y a d'autres maisons. Enfin, c'est normal, c'est un village. Là, pour le coup, c'est une inférence obligatoire. Mais d'autre part, les autres maisons appartiennent à d'autres animaux. Enfin, la poule s'affole, pourquoi ? Parce que la poule, la pauvre, elle sait que le loup mange les poules. Mais nous aussi, lecteurs, on le sait que le loup mange les poules. Et le loup, il sait que la poule sait. C'est pourquoi il répond « N'aie pas peur, poule !» Et en plus, il se justifie. « Je n'ai plus une seule dent. » Ça, évidemment, ça fait référence, vous savez, aux grandes dents du petit chaperon rouge, mais il les a perdus, il est vieux maintenant, c'était il y a longtemps, le petit chaperon rouge. Et d'autre part, il a froid. Laisse-moi me réchauffer. Pourquoi ? Parce qu'il a froid. Et donc, il fait pitié, ce pauvre loup. Mais tout ça, c'est en implicite. Ça ne figure pas dans le texte. Dans le texte figure autre chose. Tout ça, ce sont donc les implicites à recomposer par le bon lecteur. Et là, il est temps que je vous parle un petit peu des implicites. C'est là que ça va peut-être se corser un petit peu, c'est compliqué hein, d'un point de vue linguistique. Alors, tout échange courant contient une part d'implicite au milieu des informations explicites. parce qu'il est impossible de tout dire. Et d'autre part, impliciter des informations peut être une stratégie argumentative. J'accélère un peu parce que... On distingue deux catégories. D'une part, le présupposé. Si par exemple, je dis « Pierre a cessé de fumer », je présuppose qu'auparavant, Pierre fumait. Donc là, le présupposé, il porte sur le verbe « cesser ». Et par exemple, vous allez répondre « Mais non, il n'a pas cessé de fumer, je l'ai vu hier, il avait une cigarette ». Mais personne ne me dira « Oui, oui, avant ». Personne ne niera le fait qu'avant, Pierre fumait. Autre présupposé, la première maison est celle de la poule, comme le présupposé qu'on vient de voir, c'est-à-dire il y a d'autres maisons et il y a d'autres animaux. Deuxième grande sorte d'implicite, ce qu'on appelle l'implicature, qu'on peut aussi appeler le sous-entendu. Regardez par exemple, j'ai mal au dos. Si par exemple je dis j'ai mal au dos, a priori ça veut dire j'ai mal au dos. Mais, dans les deux exemples que je vais vous donner, ça veut dire en plus oui ou non. Par exemple, tu m'aides à jardiner ? Me demande mon mari. Je lui dis, j'ai mal au dos. Tout le monde comprend que ça veut dire non. OK ? Ça ne veut pas dire juste j'ai mal au dos. Ça veut dire le jardinage, tu le feras tout seul. Et si j'ai une copine qui veut venir boire un café à la maison, là, ma réponse va être différente. Elle me dit, tu restes chez toi ? Et là, je lui dis, j'ai mal au dos. Sous-entendu, j'ai mal au dos, donc je reste à la maison. Donc vous voyez, là, on a un exemple tout bête, j'ai mal au dos, qui ne veut pas dire j'ai mal au dos, qui, dans une conversation courante, signifie, dans un cas non, dans l'autre oui. Ça s'appelle donc une implicature ou un sous-entendu. Et en fait, en conversation, ça signifie que... en fait, ça vient des principes conversationnels qui ont été définis en linguistique, qui disent que quand quelqu'un parle, si on répond, c'est forcément pertinent. Et donc, on a tous tellement intégré ces règles conversationnelles que si mon mari me dit « tu m'aides à jardiner » et que je réponds « j'ai mal au dos », il comprend que non seulement, je ne fais pas que me plaindre, je viens de lui dire non. Mais c'est beaucoup plus poli, il ne peut rien dire, d'accord ? Et ça, ce sont donc ce qu'on appelle des implicatures conversationnelles, c'est-à-dire les échanges de la conversation. Normalement, on les maîtrise. Et il y a une autre sorte d'implicature qui s'appelle l'implicature conventionnelle, et il y a qui est portée directement dans la phrase. Si, par exemple, je vous dis « même Jean aime Marie », vous allez en conclure que, premièrement, Jean est très difficile et que, deuxièmement, tout le monde aime Marie. D'accord ? Et ça, c'est juste porté par ce petit mot « même ». Et donc, ça, c'est donc dans la... ça, c'était un cours accéléré de linguistique, hein, puisque, en fait, on pourrait en parler beaucoup, beaucoup plus longtemps. Ce qui est intéressant, c'est la façon dont tout ça, ça se reprogramme dans le texte littéraire. Parce que ce que vous comprenez, c'est que le texte littéraire, c'est un échange. Et qu'en tant qu'échange, il fonctionne de la même façon. Et donc... Dans le texte littéraire fictionnel, hein, qui est notre propos, hein, je vous le rappelle, on a deux grandes catégories d'implicites. Et là, il faudrait que je vous parle deux secondes d'une théorie absolument hyper intéressante, une théorie qui n'est pas seulement une théorie littéraire, mais qui s'appelle la théorie du déplacement déictique. Et c'est là-dessus que s'appuient tous nos travaux actuellement dans la recherche lire. C'est de dire que pour tout lecteur, la fiction, elle est vécue comme un déplacement qui nous projette directement dans le monde de la fiction. Tout lecteur, toute lectrice en fait ici l'expérience. C'est-à-dire quand vous lisez une fiction, est-ce que vous avez l'impression d'être en train de lire un texte de fiction ? Est-ce que vous vous dites... je suis dans le métro, je suis en train de lire un texte avec des mots. Non, tout le monde se dit, je suis dans la fiction. Et c'est ça qui fait que vous êtes amoureux des personnages, que vous pouvez éprouver une vraie tristesse quand les personnages meurent, par exemple, ou même parfois que vous pouvez oublier de descendre du métro parce que vous voulez absolument savoir ce qui se passe entre tel et tel personnage. Oh, il est en train d'aller chez elle, il va enfin s'excuser, ils vont se marier. Donc, et vous oubliez le monde réel. Non, mais tout le monde l'a éprouvé, non, cette sensation-là. Eh bien, ça, c'est la théorie du déplacement déictique qui dit tout lecteur est immergé dans une fiction directement. Il n'y a pas de discours de la fiction pour un lecteur. Et ça, c'est une implication qui est hyper importante. Pour un bon lecteur, nous sommes tous ici dans cette salle de bons lecteurs, il n'y a pas de discours de la fiction. Il y a des fictions, il y a des univers dans lesquels on est projeté. Il n'y a pas de discours, c'est-à-dire il n'y a pas de mots. Mais qu'est-ce qui se passe avec un mauvais lecteur ? Bah, le mauvais lecteur, lui, il est bloqué par le discours de la fiction. C'est bien ça le problème. Et là, on lisait hier avec Marie-France des rappels de récits d'une toute petite nouvelle qu'on a donnée à lire à des élèves de lycée professionnel. Ils reconstruisent une histoire complètement différente à partir de ce qu'ils ont lu. Et en fait, c'est la question de... Ils ont pêché quelques mots par-ci, par-là, pour reconstruire l'histoire qu'ils pouvaient reconstruire. Donc, cette théorie du déplacement déictique, elle nous apprend donc qu'il y a la fiction et qu'il y a le discours de la fiction. Et que normalement, le discours de la fiction, le lecteur n'y fait pas attention. Mais vous voyez que ça, si on didactise ça, c'est hyper important pour nous autres formateurs, c'est de dire oui, mais seulement pour les bons élèves. Qu'est-ce qu'on fait avec les autres ? Donc, il y a d'une part les implicites au niveau de la narration. Nous, ce qu'on va dire, là, on va s'intéresser à ça. Et d'autre part, les implicites du monde fictionnel. Et, par exemple, les implicites au niveau de la narration, ce sera les présupposés, les implicatures que je vous ai montrées tout à l'heure. Hein. Par exemple, Pierre a cessé de fumer. Encore faut-il comprendre qu'il fumait auparavant. Vous voyez, c'est un implicite qu'il faut peut-être mettre à jour. Les implicatures, c'est-à-dire les sous-entendus, tu m'aides à jarnir, j'ai mal au dos. Bon, bah, voilà, il faut peut-être être capable d'expliquer les implicites aux élèves. Alors, voilà ce qu'on a au niveau de la narration. Bon, alors là, j'ai schématisé, enfin, on schématise évidemment pour les besoins de la présentation. Après, vous allez voir que c'est quand même évidemment très lié. Présupposé, implicature, métaphore, ellipse, jeu avec le point de vue. Marie-France vous a montré tout à l'heure le texte qui joue avec le point de vue, c'est-à-dire on est dans un point de vue, le point de vue du narrateur. Je ne me sers plus, hein, pour les questions de point de vue, je ne me sers plus du tout de la tripartition de Genette. Hein, je me sers maintenant des travaux de Rabatel qui voit point de vue du narrateur, point de vue du personnage. Les jeux avec le point de vue et puis évidemment l'ironie, c'est-à-dire est-ce que le narrateur il est consonant, c'est-à-dire avec son personnage, ou est-ce qu'il est dissonant, c'est-à-dire est-ce qu'il se moque de son personnage. Ça, ce sont les implicites au niveau de la narration. Et ensuite, on a les implicites du monde fictionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dit sur les personnages. Les actions, les histoires, les mobiles d'action, les valeurs, les indications qui sont données par les détails et les descriptions, les proverbes, les notions culturelles, tout ça, ce sont donc les implicites qui font partie du monde de la fiction. Et donc, pour reprendre et pour terminer sur cette question, si je reprends mon exemple d'une soupe aux cailloux, on a ici tout ce qui est en jaune, ce sont les implicites de la narration, c'est-à-dire le contexte posé par le narrateur. Et tout ce qui est en bleu, ce sont les intentions des personnages qui sont parfois peut-être à ce moment du récit complètement indécidables. Par exemple, quand le loup dit « n'aie pas peur », est-ce qu'on sait à ce stade du récit s'il dit vrai, qu'il n'a plus une seule dent, ou si c'est faux ? Vous connaissez probablement une soupe aux cailloux, est-ce qu'on peut décider à ce stade ? On ne sait pas. Donc, pour l'instant, les mobiles des personnages, on ne les connaît pas. Donc, vous voyez, deux sortes d'implicites, ceux qui sont construits par la narration et ceux qui ressortissent pour l'instant au monde de la fiction. Et je te redonne la parole pour enfin la présentation de la grille.
Enfin la présentation de la grille, mais on va quand même encore attendre un tout petit peu. Non, je plaisante. Alors. Donc, notre outil, ses usages, et le premier point, donc, une grille, vous voyez, qui a été construite vraiment sur des apports théoriques solides, littéraires, linguistiques et didactiques, et donc pour accompagner la lecture préparatoire des enseignants. La lecture préparatoire des enseignants nous est apparue quand même vraiment, tout à l'heure, Frédéric a utilisé le terme, comme un angle mort de la formation. Et là, je m'appuie sur des retours les frottages de textes, par exemple, hein, c'est-à-dire toute l'énergie que certains d'entre vous, formateurs, vous pouvez dépenser en formation, justement, pour accompagner les enseignants à la lecture, mais sans véritablement avoir d'outils, c'est-à-dire que c'est un travail qui repose essentiellement sur vous. Donc, c'est laissé à la charge des formateurs et laissé à la charge des enseignants. Donc, nous avons essayé aussi de modéliser un petit peu ce qu'on entendait par la lecture préparatoire. La lecture préparatoire, elle repose déjà sur des choix. Les enseignants s'appuient sur les prescriptions, les programmes, ce qu'on leur dit, ce qu'ils peuvent en faire, sachant que nous avons quand même des prescriptions et des programmes qui varient assez rapidement, hein. Sur les conceptions qu'ils ont eux-mêmes de l'enseignement de la compréhension, et on a bien vu dans le retour de vocationnaire à quel point ces conceptions étaient prégnantes dans les choix qu'ils allaient faire. En effet, hein, est-ce qu'on s'appuie sur des questionnaires? Qu'est-ce que comprendre? Et toutes les hésitations, tous les choix, bien sûr. Et aussi sur ce qu'ils visent pour leur classe, c'est-à-dire les savoirs qu'ils veulent enseigner à leurs élèves et les objectifs donc qu'ils définissent. Ces différents points, que je brosse un peu rapidement, mais vous voyez bien à quel point c'est important dans les choix qui sont faits, vont déterminer des textes que l'on choisit, et puis aussi des dispositifs qui vont nécessiter, naturellement, ce dont vous parliez tout à l'heure aussi, tous les gestes didactiques ajustés pour comprendre. Mais vous voyez bien qu'entre les deux, eh bien, il y a quelque chose qui manque. Et ce quelque chose, eh bien, c'est... et qui vise la compréhension des élèves, excusez-moi, ça je le rajoute absolument, ce qui manque, c'est ça. Quelle lecture font-ils des textes entre le choix et les raisons de leur choix, et ensuite le dispositif, les gestes qu'ils mettent en œuvre, et la compréhension des élèves. Or là, nous avons bien sûr une entrée qui est, eh bien, la lecture préparatoire pourrait être un élément central menant à la compréhension des élèves, bien sûr, à condition d'apporter des outils pour cette lecture. Voilà, donc je vous ai schématisé ce que nous entendons, nous, par lecture préparatoire. Il ne s'agit pas de la lecture personnelle des enseignants, nous sommes bien d'accord, mais bien d'une lecture professionnelle qui vise la compréhension des élèves. Donc, nous avons préparé une grille pour accompagner la lecture et pour répondre à un besoin professionnel. Voici cette grille, nous allons vous la présenter en deux temps. Je vais vous la présenter, moi, davantage du côté quelle lecture des enseignants implique cette grille, et Anissa reviendra sur eh bien, la mise en lien des contenus de la grille, des questions posées avec les contenus théoriques qu'elle vient de vous présenter. Premier cadre de la grille. Notre grille est composée de trois cadres, trois pavés. Premier pavé, on demande de qui, de quoi ça parle. La soupe aux cailloux, de quoi ça parle. Un loup a décidé donc d'aller, un loup qui a faim va dans un village et ainsi de suite. À quel genre cela appartient-il? Quel est l'univers mis en place? S'il y a des images, que décrivent-elles? Que racontent-elles? Et quelles sont les informations prérequises par le texte? Je ne reviens pas sur les soubassements théoriques, Anissa va les déplier. Mais vous voyez là, du côté de l'enseignant, nous avons une première lecture. Une première lecture, c'est tout ce que le lecteur mobilise pour entrer dans la fiction. Anissa vous a parlé justement de la théorie du déplacement déictique qui nécessite une entrée dans la fiction. Donc, ce premier temps, eh bien, cette entrée dans la fiction, il va falloir, comme nous l'avons fait tout à l'heure avec Gauvin, mobiliser les savoirs que l'on a sur les textes, mobiliser aussi ses connaissances lexicales, ses connaissances sur la littérature. Vous avez parlé de Gauvin, des forêts enchantées et autres. Nous sommes bien sur une première lecture et regardez, je vais faire des gestes pour vous. Certains sourient déjà. Une première lecture qui va être très large. Mais elle va être large parce que petit à petit, cette lecture, il va falloir qu'on la resserre sur le texte. Et c'est ce deuxième temps qui est certainement un temps extrêmement important où nous allons cette fois-ci rentrer dans le dur de l'affaire, si je puis dire. Cette fois-ci, nous nous interrogeons, donc deuxième pavé, quelles sont les éléments implicites à faire émerger. Et vous voyez, nous reprenons exactement tout ce que vous a présenté Anissa, elle va revenir dessus. Au niveau du discours narratif, je n'énumère plus, présupposé, sous-entendu, on va revenir dessus. Au niveau de la fiction, quels sont les personnages, leurs pensées, leurs raisons d'agir, leurs croyances, leurs savoirs? On a bien vu à quel point, aussi bien La Soupe aux Cailloux que Gauvin, que n'importe quelle fiction, cette question, bien sûr, des personnages et de ce qu'ils savent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, est indispensable. Quel rapport texte-image? Y a-t-il des fausses pistes? Tout à l'heure, vous avez signalé pour Gauvin une fausse piste possible, naturellement. Hein. Le texte nous trompe, et ce sont ces tromperies du texte qui sont importantes et qu'il faut pointer avec les élèves. Peut-il y avoir des interprétations multiples? Vous voyez, là, nous sommes sur le deuxième temps de la lecture. Un temps où l'activité de l'enseignant, mais de nous aussi formateurs, va être de se centrer sur le texte, de revenir sur ce texte et de se dire, mais que dit-il ce texte? Et que ne dit-il pas? Et quel lien je peux faire entre ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas? Et c'est ce deuxième temps qui est vraiment le cœur même de la compréhension. Alors, notre outil est bien sûr très détaillé, peut-être trop détaillé, hein, nous reviendrons dessus, mais en tout cas, l'idée, c'est bien qu'il offre une grille, une possibilité pour les enseignants de lire, de comprendre les textes, mais surtout de conduire vers la compréhension des élèves. On a resserré, deuxième temps, vous voyez, je fais de la gymnastique en même temps, troisième pavé, bien sûr, c'est la troisième lecture, celle qui est dirigée vers les élèves. Qu'est-ce que je veux que les élèves comprennent? Qu'apprennent-ils sur les processus de compréhension? Nous sommes bien d'accord qu'il ne s'agit pas seulement de comprendre, il faut aussi apprendre quelque chose sur mais qu'est-ce que comprendre? Et qu'apprennent-ils aussi sur le fonctionnement des textes? À quel moment leur dit-on que le texte peut nous tromper, que le texte joue avec son lecteur, qu'il y a dans le texte des éléments qui ne sont pas donnés? Selon l'âge des élèves, on va mettre des mots différents. Mais vous voyez bien qu'on amorce et qu'on commence à élaborer une culture de lecteur. Et vous voyez, cette troisième lecture, ça permet aux enseignants de se dire « Qu'est-ce que je veux précisément que les élèves retiennent de cette lecture ?» Et là, ils vont pointer un fil rouge, un élément indiscutable, ce qu'ils veulent absolument que les élèves aient compris. En discutant avec Lucie, une stagiaire parlait de la clé du texte, en effet. Qu'est-ce qui, pour moi, dans cette situation de lecture avec ces élèves-là, à ce moment-là, me semble indispensable? Qu'est-ce que je veux absolument que là, ils aient compris? Et ce fil rouge est important parce qu'on va voir, hein, et on verra justement des films où les enseignants ne lâchent pas. Ils ont élaboré leur fil rouge, ils savent exactement où ils veulent conduire les élèves et ils vont les amener pour cette compréhension. Dites-moi, vous voyez, nous avons vraiment fait ce cheminement, c'était large, nous sommes rentrés dans la fiction et dans le texte, nous ouvrons de nouveau sur les connaissances mobilisées, nous sommes bien sur une lecture professionnelle, vous retrouvez un certain nombre de choses. Pour ceux qui connaissent, nous avions proposé sur le site de l'IFE un enseignement explicite de la compréhension en trois temps, s'appuyant notamment sur les travaux de Giasson. Avec un premier temps, clarification de la tâche, mobiliser la mémoire didactique, mobiliser les connaissances. Pendant la lecture, rendre le texte accessible, faire les liens, éclaircir les implicites, et puis expliciter, construire une mémoire didactique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'on apprend à faire et que l'on va pouvoir réutiliser dans d'autres circonstances. Trois temps, regardez ces trois temps. Mon entonnoir, enfin, temps 1, c'est large, je rétrécis sur le texte et j'ouvre de nouveau sur ce qu'il y avait à comprendre. Ces trois temps, c'est exactement notre grille. C'est-à-dire temps 1, le bleu, je mobilise les connaissances sur le texte, sur le monde. Temps 2, je resserre sur le texte et j'élabore une représentation mentale cohérente. Nous sommes bien aussi sur la description de la compréhension que nous avons revue ensemble. Et trois temps, eh bien, qu'est-ce qu'on a compris? qu'est-ce qu'on a fait pour comprendre, bien sûr, et qu'est-ce que l'on va pouvoir réutiliser dans ce domaine de la compréhension. Alors, un petit mot sur ce qu'on pense. Ça va ? Vous reviendrez donc tout à l'heure un peu plus en détail sur les contenus de la grille, mais vous voyez, cette grille en trois pavés nous permet vraiment, nous semble-t-il, de répondre à une question. Comment accompagner les enseignants lorsqu'ils lisent les textes et lorsqu'ils destinent surtout cette lecture à la compréhension de leurs élèves? Alors, c'est ambitieux, mais ça peut marcher. Ça peut marcher, donc nous l'avons testé dans plusieurs départements. Et je vais vous dire en quelques mots eh bien, ce qu'en pensent les enseignants qui l'ont testé. Nous avons analysé avec Anissa 95 questionnaires et 4 types de réponses. On avait demandé aux collègues, trouvez-vous que cette grille est utile, utilisable et acceptable? Alors, voici leurs réponses. Utile. 88% de réponses positives sur les 81 questionnaires. C'est pas mal. Les enseignants pensent que c'est utile. Ils nous disent, oui, c'est une aide. Par exemple, une collègue du GERS répond, la grille, alors c'est une débutante, la grille permet de mieux appréhender les points bloquants et difficultés des élèves durant la séquence, de mieux s'approprier l'histoire également. Et on a beaucoup, hein, vraiment 88% de réponses positives, on a beaucoup de réponses de ce type. Mais on a aussi, bof, je le faisais déjà. Ce sont des questions qu'on se pose déjà avant de proposer un texte aux élèves. Bon, oui. C'est à entendre, à écouter, et on ne peut que répondre tant mieux, hein, si c'était déjà fait. Et pour utilisable et acceptable, nous avons 86% de réponses positives, avec des oui, c'est un outil assez facile à utiliser. C'est surtout sur l'utilisabilité que les collègues freinent. Acceptable, c'est acceptable. Utilisable, voilà. Oui, c'est un outil assez facile à utiliser, nous disent un certain nombre d'enseignants, hein, quand même, 86%. Les questions sont simples, bon, succinctes, tout en permettant de bien faire le tour des enjeux de compréhension. Mais beaucoup répondent, on l'utiliserait plutôt en groupe. Les échanges motivent et stimulent. Seul, après un échange collectif, ça fait envie. Mais démarrer, élaborer seul, point de suspension. Et là, c'est une réponse qui revient très fréquemment. C'est un travail, oui, qu'on peut faire, oui, mais que nous ferons plutôt en groupe. Et puis, bien sûr, bof. Bof, c'est compliqué et chronophage. Et là, on en a quand même quelques-uns qui nous disent « L'outil est complexe, trop chronophage pour moi, je ne l'utiliserai pas. » Voilà. Mais vous voyez, 86% de réponses utilisables et acceptables. Nous sommes quand même sur la bonne voie et nous allons donc persévérer. Voilà.
Je vais prendre le relais de Marie-France. Là, donc, on a abordé avec vous, on a présenté la grille du point de vue de son est-ce qu'elle est utilisable pour préparer des séances ou des séquences de classe. Et notre grille, elle a une double fonction puisqu'elle sert aussi en tant qu'outil de formation. Donc, on va y revenir cet après-midi dans un atelier en remerciant beaucoup les collègues qui l'ont testé dans leur formation. Et je voudrais revenir avec vous sur les questions de formation que ça souligne parce qu'on va y être confronté. On va avoir plusieurs temps au cours de ces 2 jours où on va vous mettre en position de réfléchir sur des textes. Donc, je pense qu'on va aborder tout ça plusieurs fois. Voilà les questions que ça suppose. Donc, de qui, de quoi ça parle? Ça, c'est la question la plus simple du monde. Et pourtant, vous allez voir que ça va nous faire discuter pendant très longtemps. Parce qu'on ne va pas être d'accord. Et pourquoi? Tout simplement parce que les textes qu'on va proposer, les textes sur lesquels on travaille, qui sont des textes où l'implicite, donc où l'élucidation plus exactement de l'implicite, sert de clé de lecture et de surprise, hein, eh bien, on les prend comment, ces textes? C'est-à-dire, est-ce qu'on les prend par le début ou est-ce qu'on les prend par la fin? Est-ce qu'on les prend par notre point de vue de lecteur naïf ou est-ce qu'on les prend par notre point de vue de lecteur qui a compris qu'il ne fallait pas se laisser avoir? Donc, comment on raconte? Et donc, en fait, on va essayer d'y répondre ensemble. Est-ce qu'on attend un résumé? Est-ce qu'on attend c'est l'histoire d'eux? Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la difficulté à rendre compte du récit est un indice, en fait, de l'intérêt de l'histoire. Et notamment de la double lecture, c'est-à-dire du récit prospectif et du récit rétrospectif. Et il faut faire de cette difficulté un enjeu de formation, parce qu'évidemment, vous le savez déjà depuis longtemps, il ne s'agit pas d'avoir des réponses à toutes les questions, il faut avant tout pouvoir en discuter et pouvoir décider quelque chose. On n'a pas de recettes en didactique. Si on avait des recettes, on le saurait depuis longtemps et on ferait tous la même chose. Et là, il y a un texte que j'aime bien, qui est ce texte de Gervais, et un texte déjà ancien où il parle des régies de la lecture littéraire et où il dit « Une lecture en progression où l'attention est avant tout fonctionnelle ne répond pas aux mêmes critères qu'une lecture en compréhension caractéristique de la lecture littéraire. La première ne pourra jamais être que réussie ou non, tandis que la seconde pourra être perçue comme bonne ou mauvaise, juste ou fausse. » Donc Gervais, il appelle ça lecture en progression, lecture en compréhension. D'autres parlent de lecture première et de lecture seconde, ou de lecture prospective et de lecture rétrospective. J'aime bien ce que dit quand même Gervais, c'est-à-dire que il dit, en fait, en fonction des enjeux de la lecture, peu importe, finalement, si l'élève se trompe, tant qu'il arrive à progresser dans sa lecture. Et c'est au moment où, en fait, ça va lui poser problème, qu'il sera obligé de revenir. De qui, de quoi ça parle? Il y a la question du genre, ensuite. Alors, vous savez qu'en littérature, un genre, c'est une grande... Bon, le mot genre, c'est un mot qui sert un peu... qui sert en fait surtout à montrer qu'on fait des classifications. En littérature, c'est une catégorie de textes qui se définit en général par des caractéristiques formelles ou thématiques. Alors, en littérature, on a quatre grands genres, hein. Roman, poésie, théâtre, essai. Mais nous, là, on travaille, je vous le rappelle, dans le récit littéraire fictionnel, qui lui-même se caractérise en sous-genres. Par exemple, le conte, merveilleux ou pas d'ailleurs, le fantastique, la science-fiction, le policier, le réaliste. Donc, identifier le genre, c'est identifier ça. Ensuite, la question de l'univers mis en place, c'est la question de la diégèse. Et la diégèse, c'est-à-dire le monde où se déroule l'histoire. Est-ce que c'est notre monde? Est-ce que c'est notre monde, mais déformé? Est-ce que c'est un autre monde? Un monde de science-fiction, mais ça peut être aussi le monde du conte, par exemple. Le « il était une fois » du conte. La question donc des images, que décrivent, que racontent les images? Alors là, bon, vous connaissez les travaux sur les rapports texte-images. Est-ce que les images disent la même chose que le texte? Est-ce qu'elles complètent le texte? Ou au contraire, est-ce qu'elles disent autre chose du texte? Et enfin, quelles sont les informations prérequises par le texte? C'est-à-dire, qu'est-ce que les élèves ont besoin de savoir pour comprendre le texte? Est-ce qu'ils ont besoin de... est-ce qu'on a besoin d'apports, par exemple, de savoir sur le monde, des apports de vocabulaire, ou identifier avec eux le genre du récit? Évidemment, « il était une fois », attirer l'attention des élèves sur le « il était une fois », c'est aussi leur apprendre que les contes merveilleux, ça commence par cette petite formule. Donc, ensuite, en deuxième niveau, on a donc les éléments implicites à faire émerger. Alors, tout à l'heure, je vous en ai un petit peu parlé, hein. Je vous rappelle que les présupposés, ce sont les éléments qui sont déjà là et qui ne sont pas questionnés par le texte, alors que le sous-entendu, c'est plus lorsque le texte dit autre chose que ce qu'il dit. Ensuite, on a par exemple l'ellipse, qui est un élément important qui est absent du texte. Alors attention, l'ellipse ici est à distinguer de l'incomplétude. L'incomplétude, c'est par exemple, il alla se coucher le lendemain matin quand il se réveilla. Ça, c'est une ellipse qui est avant tout fonctionnelle. On n'a pas besoin de savoir comment s'est passée sa nuit, sauf si vous avez lu, par exemple, l'ellipse célèbre de Roger Ackroyd, d'Agatha Christie, que je ne veux pas vous spoiler. Vous savez que là, tout se passe pendant l'ellipse. Donc, on a parfois besoin de revenir sur une ellipse, mais dans ce cas-là, on voit bien qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Et c'est à distinguer donc de l'incomplétude. Et puis, plus généralement, le blanc, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas dans le texte. Et puis, évidemment, la question du point de vue qui est hyper importante. Alors là, il faudrait avoir le temps d'en parler beaucoup plus. Comme je vous le disais tout à l'heure, moi, j'ai renoncé à la tripartition des focalisations de Genette. Vous savez, narrateur externe, interne, omniscient. Qui ne s'est pas trouvé en difficulté pour identifier un point de vue, en fait, avec des avis complètement divergents? En fait, Genette, la tripartition des focalisations, c'est Genette 1972. Personne n'irait se faire soigner chez un médecin qui soigne comme en 1972. Excusez-moi l'image, mais c'est la même chose en théorie littéraire, en fait, hein. Depuis, on a beaucoup, beaucoup progressé. Je vous invite à lire notamment Rabatel, La théorie textuelle du point de vue, 1998. C'est super intéressant parce que Rabatel, en fait, se fonde sur des indices linguistiques. Alors, c'est un linguiste, un Rabatel. Donc, souvent, ce que font les linguistes, ça peut apparaître un petit peu plus aride que ce que nous, les littéraires, on aime bien. C'est-à-dire un peu de poésie, quoi. Ça peut manquer un peu de poésie, mais bon, c'est quand même important pour comprendre le texte. Et notamment, donc, suivant les travaux de Ducrot, Rabatel distingue le point de vue du narrateur ou le point de vue du personnage, à chaque fois en indexant ça sur des indices de pensée ou des indices de parole très clairs. Et évidemment, le savoir, la perspective, elle peut être plus ou moins limitée ou complètement illimitée. Elle est plus illimitée si c'est le narrateur. Alors, c'est ce que Genette appelle donc dans ce cas le narrateur omniscient, ou elle peut être très limitée si c'est le personnage. Donc, quand on a un changement de point de vue dans un récit, c'est souvent là que se situe l'implicite et puis la petite surprise du texte. Marie-France vous l'a montré tout à l'heure avec son exemple. En fait, c'était là où on avait l'absence que Gauvin avait rétréci. C'était en fait parce qu'on avait son point de vue à lui. Lui n'avait pas conscience encore d'avoir rétréci. Et ensuite, on a donc au niveau de la fiction, donc, est-ce que concernant les personnages, tout est dit, expliqué ou justifié? Est-ce qu'on peut se faire une représentation, non pas réelle, hein, mais en tout cas fonctionnelle, de ce que sont les personnages? Et de ce à quoi ils aspirent. Pour reprendre tout à l'heure l'exemple de Une soupe aux cailloux, il faudra progresser un petit peu dans la lecture pour savoir si en fait le loup avait l'intention de manger une soupe ou s'il avait l'intention de croquer la poule. Et en fait, est-ce qu'on le sait réellement à la fin de la lecture? Pas forcément. On sait ce qu'il a fait, c'est-à-dire il est parti après avoir mangé une bonne soupe, il est allé frapper chez le dindon. Mais on ne sait pas, peut-être qu'il avait l'intention de manger la poule, on ne le saura jamais. Et puis, le texte oriente-t-il son lecteur vers une autre fin? Laquelle? Comment? Certains éléments restent-ils donc indécidables? Je ne sais plus où j'en suis. Alors, ensuite, le dernier pavé, c'est donc qu'est-ce que je veux que les élèves comprennent? Hein, Marie-France vous a présenté tout à l'heure la question du fil rouge. Eh bien, tout ce qu'il faut, en fait, s'il faut se rappeler là que la lecture du littéraire, c'est une lecture qui, comme le disait Thauvron déjà il y a quelque temps, il y a plus de 20 ans, c'est une lecture qui est parfois résistante. Et alors, je sais que souvent, on axe beaucoup le travail sur qu'est-ce que je veux que les élèves apprennent et non pas qu'est-ce que je veux que les élèves comprennent. Mais nous, ce qu'on postule aussi, c'est que comprendre le littéraire, c'est apprendre quelque chose aussi. Et là, il y a un texte donc déjà ancien de Thauvron qui cite Schneuvli et qui dit quelque chose de très intéressant. Et sur quoi finalement se base tout ce qu'on vous a présenté tout à l'heure? Et là, j'en reviens donc au début de ce qu'on disait, c'est-à-dire les mauvais résultats de Pearls et de PISA pour les élèves français. La tâche de l'école est d'introduire les élèves dans le mode de pensée et de parler particulier des pratiques littéraires qui se fondent sur des savoirs tout à fait spécifiques. Dans une telle perspective, le travail sur la littérature constitue entre autres l'apprentissage d'une forme particulière de lecture qu'il s'agit de repérer parmi d'autres formes de lecture que l'élève doit s'approprier. C'est super intéressant, non? C'est-à-dire, en fait, apprendre à lire le littéraire avec toutes les conventions que nous on connaît par cœur, sur lesquelles on ne réfléchit même plus, c'est aussi une tâche de l'école. Et pas seulement, par exemple, travailler sur la morale de tel ou tel conte. Par exemple, il faut se méfier des grands méchants loups. Non, non, c'est aussi apprendre à lire Le petit chaperon rouge. Je te repasse la parole.
Voilà. Et pour terminer la phrase aussi d'Anissa, lire le littéraire, c'est aussi lire sur de vrais textes, c'est-à-dire des textes courts, adaptés à l'âge des élèves, mais des textes qui posent de vrais problèmes de littérature et pas seulement faire tous les entraînements inférentiels où on a une phrase, il prit ses bottes et son manteau, quel temps faisait-il, hein ? Nous sommes vraiment bien éloignés, là, vous le voyez, des questions que pose la compréhension, et pas seulement la compréhension du littéraire, mais aussi la compréhension du monde. Hein. C'est-à-dire que là, tout à l'heure, quelqu'un parlait des enjeux de la compréhension. Oui, hein, comprendre, c'est vous, je crois, et bien comprendre, c'est aussi former des citoyens capables de comprendre ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Donc, pour nous, c'est un enjeu fort. Et du coup, je conclue. Vous voyez, nous avons voulu élaborer un outil didactique facilitant et permettant l'enseignement et la formation avec cette question, comment améliorer la compréhension des élèves. Donc, notre outil paraît utile, oui. Il répond, en effet, à un besoin, à un manque hein, que nous avons signalé. Est-il acceptable? Oui, mais. Hein, je vous ai signalé le mais. En effet, il répond aussi à des préoccupations. Est-il utilisable? Il est encore peut-être trop complexe, hein, c'est une vraie, vraie question, et une question dont nous allons pouvoir nous saisir aussi avec vous, c'est-à-dire que, eh bien, vous le verrez, hein, donc il se présente sous cette forme, voilà, une grille comme ceci, hein, trois pavés de questions, et nous envisageons d'en revoir la présentation et peut-être une forme mieux adaptée à la fonction, plus proche peut-être aussi des outils habituels que l'on utilise, que vous utilisez, dans la formation. Voilà, et je crois que nous avons été extrêmement bavardes, hein, mais nous nous arrêtons. Eh bien, voilà.